Vous écoutez Espace Parents, un balado qui traite de sujets qui vous préoccupent. On dit parents, mais belle-mère, beau-père, ma tante, grand-papa, enseignante. Si vous êtes un adulte significatif dans la vie d'un enfant, ben on s'adresse à vous. Moi, c'est Mylène. Je suis aujourd'hui avec Caroline. Nous sommes toutes les deux intervenantes communautaires à Espace Région de Québec, un organisme en prévention des différentes formes de violences faites aux enfants. Parce qu'on croit que tous les enfants ont le droit de vivre une enfance en sécurité et sans violence, on vous a préparé un épisode court, clair et concis, et on prend le temps de répondre à vos questions. Dans ce premier épisode, on aborde la sécurité des enfants dans le monde virtuel, un enjeu actuel et préoccupant dans cet univers en constant changement.
Qu'est-ce qu'on doit surveiller comme parents?
Je me demande si mon jeune n'est pas dépendant des jeux en ligne. Quand est-ce que je commence à m'inquiéter?
Une influenceuse? Tu veux devenir une influenceuse?
Le temps d'écran, c'est quoi l'idéal? Trop de temps d'écran, qu'est-ce que ça peut faire?
C'est quoi exactement l'empreinte numérique?
Le virtuel est un sujet tellement d'actualité. Nos jeunes grandissent le nez rivé aux écrans, alors c'est normal de se poser des millions de questions. Et aujourd'hui, on prend le temps de répondre à quelques-unes d'entre elles. Le monde numérique est tellement vaste. Dans l'épisode, on va commencer par cibler des sujets qui sont à considérer sérieusement dans l'éducation de nos jeunes. Premièrement, que doit-on surveiller en tant que parent? Les jeux en ligne, bien entendu, les moteurs de recherche qui sont utilisés par nos jeunes, et bien évidemment, les fameuses applications ou les sites de partage de vidéos. Mylène et moi, on va démêler tout ça. On trouve aussi que c'est important qu'on parle des influenceuses et des influenceurs, ces gens qui peuvent avoir énormément d'impact sur nos jeunes. Ensuite, on va entamer la discussion autour du temps d'écran, un sujet incontournable quand on pense à Internet et aux enfants. C'est quoi qui est recommandé? Quels sont les effets sur les jeunes? Qu'est-ce qui marche comme stratégie et comment on ouvre le dialogue avec eux? On a rassemblé des conseils qu'on aimerait partager avec vous qui pourraient vous soutenir au quotidien avec vos enfants. On va aussi aborder l'empreinte numérique, puisqu'il y a des gestes comme adultes qu'on pose, sans mauvaise intention, mais qui peuvent avoir des conséquences sur nos enfants.
Alors voilà, on est prête à entrer dans le vif du sujet. C'est clair pour nous, on ne laisserait pas notre jeune de 9 ans partir seul à l'aventure dans des lieux publics. Pourquoi? Mais parce qu'on sait que des personnes pourraient profiter de sa vulnérabilité, parce qu'il serait démuni, seul, face au monde extérieur. Il a besoin d'être accompagné car il n'est tout simplement pas rendu là dans son développement. On vous donne cet exemple-là car on veut faire le parallèle avec Internet. Naviguer en ligne, c'est aussi aller à la rencontre d'inconnus. C'est être sollicité, c'est des stimulations, de l'information à l'infini et ça bouillonne de divertissements qui sont plus ou moins adéquats pour nos jeunes. De ce fait, on comprend bien que l'enfant seul sur le web, tout comme dans un lieu public, est vulnérable en présence d'inconnus et sa sécurité peut être compromise. C'est primordial d'agir en prévention et d'éduquer les jeunes en lien avec, oui, les dangers auxquels ils peuvent être confrontés, mais surtout les sensibiliser aux saines habitudes de vie sur Internet. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble. On va voir comment s'y prendre pour inclure les notions de saines habitudes de vie et de comportement responsable sur Internet dans l'éducation de nos jeunes et amorcer ensemble une réflexion sur nos propres comportements en ligne en tant qu'adultes.
Là, Rémi me parle de tellement de noms d'applications. Je suis vraiment mêlé. J'entends plein de bruits de notifications. Ça arrête jamais de sonner. Ça a l'air intense.
Hey, il y en a tellement. Fortnite, Snapchat, Ask, Bubble, Gradu, Granola, TikTok. Hey, je suis même pas capable d'en prononcer la moitié.
Je sais, il y en a encore plus que je pensais. On fait quoi avec ça?
Ben, je pense qu'il faudrait se tenir à jour des sites web et des applications que nos enfants utilisent. Aller explorer un peu. Ça te tente-tu qu'on fasse une petite recherche?
C'est une bonne idée. Ça va tellement vite, je me sens tellement dépassé. Ça va être quoi dans 5 ans?
Comme parent ou en tant qu'adulte, c'est normal de se sentir perdu dans l'éventail des jeux à travers les différentes applications et parmi les nombreuses plateformes de réseaux sociaux qu'ils utilisent. Pour bien comprendre leur réalité et le monde dans lequel ils grandissent, c'est important de se tenir à jour et d'explorer ce monde avec eux. Parlons premièrement des jeux en ligne. Qu'est-ce qu'on doit savoir? D'abord, il y a quelques mises en garde. C'est important de réaliser que les applications et les sites de jeux en ligne proposent des publicités qui peuvent inciter les jeunes à cliquer sur un lien qui les amènera ailleurs, sur une autre page qui peut contenir des virus, des images explicites. C'est justement là qu'ils peuvent être plus à risque de vivre de l'hameçonnage, de la sextorsion ou encore de la cyberintimidation. Il faut aussi savoir que les jeux en ligne nécessitent parfois l'utilisation d'un micro. Les conversations sont alors entendues et des publicités leur sont proposées en fonction de leurs discussions. Les jeux en ligne sont excessivement faciles d'accès et ça implique parfois que les jeunes jouent avec des inconnus. C'est une porte d'entrée pour les personnes mal intentionnées qui voudraient trouver une façon d'être en contact avec des jeunes.
Pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires, on peut se poser les questions suivantes. Est-ce que le jeu est supervisé par un modérateur? Un modérateur, c'est une personne qui s'assure du bon déroulement des échanges et du maintien d'une bonne ambiance de jeu. Ils ont le pouvoir de priver le droit de parole d'un joueur s'il tient des propos jugés inopportuns, s'il fait de la cyberintimidation. Il peut le sortir du jeu pour un moment et ultimement bannir un joueur. C'est en allant visiter la plateforme de jeu, en lisant les consignes ou les avis, que vous saurez s'il y a un modérateur de jeu. Est-ce que le contenu du jeu convient à l'âge de votre enfant? La plupart du temps, vous pouvez vérifier la cote ESRB. C'est une cote qui permet de vérifier si un jeu est approprié selon l'âge de l'enfant. En tapant « cote ESRB » dans une barre de recherche, vous aurez rapidement accès à la légende. Le jeu comporte-t-il des fonctions de clavardage? Si oui, est-ce que c'est possible de les désactiver? Y a-t-il d'autres fonctions non essentielles qui peuvent être désactivées par mesure de sécurité et de prévention, comme la géolocalisation, par exemple? En faisant une recherche, vous pouvez rapidement trouver la façon de faire pour chaque application. Le jeu présente-t-il des publicités susceptibles de rediriger votre enfant vers d'autres sites? Est-ce possible de signaler une activité inappropriée? Vous pouvez vérifier dans les consignes du jeu. Et finalement, on vous suggère de créer vous-même le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre enfant. Les activités en ligne d'un enfant doivent toujours être encadrées par un parent ou un adulte de confiance.
Il existe d'autres comportements qui peuvent être mis en place pour favoriser un encadrement adéquat de l'utilisation des jeux en ligne. D'abord, c'est optimal d'apprendre à notre enfant à bien se comporter en ligne plutôt que de lui retirer le droit de jouer lorsqu'il a des comportements inappropriés. Tout comme vous le feriez pour un jeu hors ligne, expliquez à votre enfant les consignes à respecter dans un jeu en ligne. On peut informer le jeune sur ce qu'il doit dire ou faire si quelqu'un lui demande ou écrit des choses qui le mettent mal à l'aise, soit de ne pas répondre, de bloquer la personne, de signaler l'incident sur le site. Tellement important aussi de l'inviter à venir nous en parler, en le rassurant et en lui disant qu'on ne lui enlèvera pas le droit de jouer. Le but, c'est de l'encourager à venir nous parler sans avoir peur des conséquences pour entretenir le lien de confiance. On peut aussi lui parler des ressources qui viennent en aide aux jeunes qui vivent des difficultés comme « Tel jeune »,« Jeunesse j'écoute » et « Aidez-moi s'il vous plaît.ca ». L'idéal est de ne pas se servir de l'accès au jeu comme seul moyen de récompense ou de punition avec notre jeune. Bien qu'il y ait plusieurs enjeux en lien avec l'utilisation d'Internet, c'est important de souligner que le jeu en ligne avec des amis, c'est une activité qui comble plusieurs besoins chez les jeunes et ça peut aussi apporter des bienfaits. Il faut considérer les sentiments d'appartenance et de valorisation qui sont ressentis et le côté social qui est vécu à travers ça, tout en offrant un cadre clair et sain d'apprentissage.
Maintenant, si on parle des moteurs de recherche, il faut savoir que les jeunes ont accès en quelques clics à des contenus divertissants, informatifs et éducatifs. Mais encore une fois, la vigilance s'impose car ils peuvent facilement tomber sur du contenu inadéquat. Avant de visiter un site avec lui, assurez-vous que ce site est approprié pour son âge. On vous conseille aussi d'installer facilement le filtre Safe Search sur les appareils électroniques accessibles par les jeunes dans votre environnement. Cette fonction permet de filtrer le contenu explicite pour l'éliminer des résultats de recherche. Parmi les résultats explicites figurent les contenus violents ou à caractère sexuel et pornographique. Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec Google. On vous recommande d'accompagner votre enfant dans ses recherches en ligne sur les sujets qui l'intéressent. Les moteurs de recherche suivants, soit Kaggle et Quant Junior, sont adaptés pour vos jeunes. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils aident à éviter le matériel inapproprié et les contenus pour adultes. Kaggle.ca, K-I-D-D-L-E.ca, c'est la version junior de Google. Il utilise justement le filtre Safe Search pour proposer aux enfants des contenus adaptés à leur sensibilité. Il y a aussi Quant Junior, Q-W-A-N-T Junior, qui est un moteur de recherche dédié aux enfants qui ne contient aucune publicité et qui va proposer davantage de matériel pédagogique. On vous conseille aussi de vous informer sur les différents programmes de contrôle parental et leurs fonctionnalités. Les listes blanches, les listes noires, les heures d'accès, la surveillance, c'est assez facile de faire une recherche sur les différentes modalités offertes par votre fournisseur Internet. N'oubliez pas que les enfants apprécient que l'on s'intéresse à leur champ d'intérêt. Donc, profitez-en pour vous familiariser avec leurs préférences et ainsi vivre des moments de complicité avec eux. C'est notre rôle en tant qu'adultes de confiance de les encadrer dans ce monde si vaste qu'est le virtuel.
En effet, les adultes ont un rôle très important dans l'apprentissage du monde numérique. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais sachez que nous avons élaboré un aide-mémoire pour vous, disponible sur notre site web via espacesansviolence.org/région-Québec. Maintenant, il faut aussi savoir que les sites de partage de vidéos ne permettent pas toujours de mettre des contrôles parentaux ou d'empêcher les enfants de voir certains types de contenus. C'est aussi sur ce genre de sites ou d'applications que vos jeunes risquent d'être exposés aux influenceuses et aux influenceurs. Ces personnes ont souvent comme mandat d'encourager l'achat de produits, mais aussi du même coup, elles encouragent non seulement la consommation, mais certains comportements pouvant être problématiques en véhiculant parfois des stéréotypes. Elles ou ils vont publier des photos à leur avantage qui donnent l'impression qu'ils ont une vie de rêve, toujours de bonne humeur, alors qu'on sait très bien que tout le monde dans la vie a des moins bonnes journées et qu'on peut vivre d'autres émotions que la joie. Se comparer toujours à la perfection, ça peut être décourageant pour nos jeunes. En tant qu'adulte, on réussit généralement à faire la part des choses. On sait que les photos ont été travaillées, modifiées et qu'elles ne reflètent pas la réalité, mais nos jeunes ne savent pas toujours comment faire la distinction entre le monde réel et virtuel. Sachant que les jeunes et les ados ont le désir de se comparer, des études récentes, comme l'étude du projet d'œuvre, démontrent qu'il y a un impact direct entre l'exposition à ces messages et le rapport à son corps et à l'estime de soi. De plus, en voyant les influenceurs obtenir des millions de j'aime, ça fait en sorte qu'ils sont dans l'attente, eux aussi, d'obtenir des j'aime, ce qui peut venir générer de l'anxiété et encourager des valeurs de compétition. En grandissant, les jeunes se dirigent de plus en plus vers l'individuation, c'est-à-dire qu'ils veulent davantage penser par eux-mêmes, redoutent l'obéissance aveugle, tentent de se responsabiliser et recherchent des conseils auprès de leurs pairs. Ils peuvent donc facilement être influencés par différents discours et c'est pour ça qu'il importe d'encourager le développement de leur esprit critique et de leur fournir les bons outils.
Pour ces différentes raisons, on vous conseille de vous intéresser à ce que regarde votre enfant et de vous assurer que ce qu'il consomme sur le web soit approprié pour son âge. Fais l'aider à trouver du contenu intéressant car après, avec les algorithmes, il lui en sera proposé du même genre. Montrez l'exemple en ce qui concerne le bon usage des sites de partage vidéo et d'Internet en général et misez sur l'importance de ne jamais prendre ou envoyer des images ou des vidéos sans consentement. Tentez de limiter davantage le contenu consommé de façon solitaire et passive comme le défilement des fils d'actualité des réseaux sociaux, le fameux « scrolling ». Ou encore le visionnement en rafale de vidéos non éducatives. Si vous avez besoin de soutien concernant l'usage d'Internet, la cyberdépendance ou encore la cyberintimidation, il y a différentes ressources qui peuvent vous aider, notamment CyberAide, aidezmonenfant.ca, aidezmoi-s'il-vous-plaît.ca et pose-ton-écran.ca.
Maintenant, comment on parle de tout ça avec nos enfants? D'abord, c'est primordial d'aborder le sujet de l'utilisation d'Internet avec votre enfant dans une optique d'apprentissage, de manière collaborative, de façon à donner à votre jeune la possibilité de poser des questions et de vous faire part de son opinion. Il faut garder en tête que le but est aussi de susciter des échanges, des discussions avec eux. C'est de cette façon-là qu'on peut contribuer au développement de leur esprit critique. Les aider à devenir de bons citoyens dans le monde virtuel, c'est aussi ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. La citoyenneté numérique couvre l'ensemble des valeurs, des aptitudes et des connaissances qui sont nécessaires pour utiliser le web de manière responsable et éthique. On vous invite à aller lire sur le sujet si vous voulez en apprendre davantage. En tant que parent ou adulte significatif, il importe d'offrir des moments d'apprentissage du monde virtuel à nos enfants. Et rappelons-nous que l'apprentissage n'a pas besoin d'être douloureux. Au contraire, il peut représenter des moments riches d'échanges et de complicité avec les jeunes.
Ma fille m'a dit que son amie passait comme 4 heures par jour en ligne puis que j'avais pas rapport de la limiter à 2 heures. Hey, 4 heures? Me semble que ça n'a pas de bon sens. Toi, c'est combien d'heures que tu permets à ton fils la semaine puis la fin de semaine?
Ben, écoute, j'ai le même problème. Là. Yuri essaie toujours de négocier plus de temps d'écran puis il me dit que c'est pas juste, que ses amis, eux autres, ont droit à plus. Je me demande c'est quoi le temps idéal puis surtout comment je peux lui faire comprendre.
Ouais, effectivement, ça nous prendrait des trucs pour ouvrir la discussion avec eux.
Moi, j'ai surtout peur qu'ils me cachent les affaires si je le limite trop. C'est fou, on dirait que je comprends pas c'est quoi qu'ils intéressent tant sur Internet.
Ils disent souvent que c'est pour se désennuyer, qu'ils ont rien à faire. Sûrement pour faire comme tout le monde aussi.
Ouais, c'est tellement facile d'accès puis attrayant en plus.
Le temps d'écran, quel débat! Les jeunes y en veulent toujours plus et c'est tellement important d'ouvrir le dialogue avec eux et de prendre au sérieux cet aspect-là dans leur éducation. C'est prouvé à travers les différents écrits consultés pour l'élaboration de ce balado. L'INSPQ, la Société canadienne de pédiatrie et d'autres s'entendent pour dire qu'il y a de nombreux effets négatifs sur le corps et l'esprit en lien avec le temps d'écran et les longues périodes de jeu en ligne. Dans le prochain segment, on va vous présenter des recommandations, discuter des différents effets néfastes possibles dus à une trop grande utilisation des écrans, des indices à surveiller et finalement, on aborde les pistes de prévention.
Nous allons vous expliquer comment nous pouvons bien établir un cadre entourant le temps d'écran. D'abord, il faut savoir qu'on va se baser sur trois facteurs, soit le contenu, le contexte et les caractéristiques individuelles de notre jeune. D'abord, le contenu. Est-ce que c'est pertinent ce qu'il fait sur le web? Est-ce que c'est du temps sur les médias sociaux, sur des jeux vidéo, à faire du clavardage, à lire ou à écouter des documentaires? Donc, le contenu. Par exemple, pour les enfants de 6 ans et moins, il est conseillé un contenu éducatif uniquement. Pour les 6 à 12 ans, même si le contenu se diversifie et qu'il passera davantage de temps en ligne soit pour clavarder ou pour jouer à des jeux en ligne, l'équilibre entre les différents types de contenu est de mise. Ça va aussi dépendre du contexte et du moment de la journée. Est-ce qu'il est en ligne pendant l'heure du souper, pendant une activité familiale ou seulement après avoir fait ses devoirs, par exemple? Donc, pour le contexte, si l'enfant est âgé de 10 ans et moins, on suggère qu'il soit en ligne dans une aire commune. Si l'enfant de 12 ans veut jouer à un jeu en ligne, on peut privilégier un moment dans la routine, soit après la douche ou après ses devoirs, ou encore avant le souper uniquement. Et bien entendu, ça peut aussi dépendre des caractéristiques individuelles du jeune, comme son âge, justement. Pour les moins de 2 ans, c'est recommandé d'avoir aucun temps d'écran. Chez les moins de 5 ans, on parle de moins d'une heure. Et chez les 6 à 12 ans, on parle d'un 2 heures maximum pour ce qui est des activités de loisirs sur les appareils électroniques. Sa santé physique et mentale, sa capacité d'analyse et son sens critique sont aussi d'autres caractéristiques à considérer. Si mon enfant est malade ou s'il est dans un moment de stress, on peut ajuster le temps d'écran en conséquence. L'encadrement parental du temps d'écran doit donc être réalisé en fonction de ces critères. Pour s'en rappeler, on peut se dire les 3 C: contenu, contexte et caractéristiques. Pour les parents qui se posent la question, est-ce que c'est une bonne idée de proposer l'écran à un enfant pour le calmer quand il est surexcité? Eh bien, le risque avec cette stratégie, c'est que l'enfant soit surstimulé par le contenu, les effets spéciaux, le son trop fort, le montage rapide. Et plus on fait ça de manière récurrente pour le calmer, l'enfant n'apprend pas à se contrôler ou à réguler son humeur. Ça se pourrait qu'il ait toujours besoin d'un écran pour gérer ses comportements et ses émotions. L'idéal pour son développement, c'est qu'il apprenne à développer des stratégies pour se calmer et non se fier aux écrans pour y arriver. En plus, en faisant ça, on vient récompenser un comportement qu'on ne veut pas voir se reproduire. On ne reviendra pas sur tout ce qui a été mentionné en début d'épisode, mais sachez qu'il est essentiel de créer un cadre qui est clair, entourant le temps d'écran permis, mais comprenons qu'il pourrait être différent d'un enfant à l'autre dans une même famille et que ces différences s'expliqueraient par ces 3 facteurs. On le sait, c'est d'ailleurs souvent un sujet de dispute dans la fratrie, mais en expliquant les raisons qui motivent notre cadre, on peut amener l'enfant à mieux comprendre.
Abordons maintenant les impacts négatifs du temps d'écran prolongé ou de la cyberdépendance et les signes à prendre en considération. Pour commencer, les impacts au niveau psychologique reconnus par plusieurs, notamment l'American Academy of Pediatrics et la Société canadienne de pédiatrie. Il y a la colère, la rage, la compulsivité, l'isolement, la solitude et ultimement la dépression. Quand on parle de colère ou de rage, si j'interromps une session de jeu ou si le Wi-Fi tombe en panne, c'est quoi la réaction du jeune? Si les enfants ou les jeunes réagissent avec de la colère ou de la rage, y compris des cris ou des attaques physiques, alors c'est quelque chose qui mérite d'être noté. Ou encore, on a nommé la compulsivité. C'est-à-dire que, est-ce que je remarque un fort sentiment d'urgence pour revenir au jeu? Est-ce que c'est difficile de se dégager d'Internet pour faire une activité prévue en famille, par exemple? Le jeu compulsif peut se manifester en jouant au-delà des heures d'arrêt, tard le soir, la nuit ou encore se faire en secret. Il faut aussi savoir que l'isolement et la solitude sont aussi des conséquences possibles. C'est certain que si votre jeune passe de longues périodes à jouer seul à des jeux, il aura forcément moins de temps pour avoir des interactions avec la famille et ses amis dans la vraie vie. Et ultimement, la dépression. Chez les joueurs réguliers, on va remarquer de l'apathie, de la tristesse ou de la léthargie. Ça peut être des signes de problèmes de cyberdépendance. Les symptômes dits dépressifs seraient plus apparents lorsque le jeune ne joue pas au jeu, c'est-à-dire pendant la période qu'on dit de sevrage.
Ensuite, c'est aussi intéressant de noter les impacts négatifs sur le plan de la santé physique, tels que la vision, le sommeil, les capacités d'apprentissage et le poids. D'ailleurs, c'est bien documenté, la lumière bleue a un effet néfaste sur le sommeil et à long terme, ça affecterait la vision de manière importante. On parle aussi de micro-traumatismes répétés. Les enfants et les jeunes qui jouent à des jeux pendant de longues périodes, c'est clair qu'ils peuvent être affectés par des raideurs, des courbatures, de la douleur et de l'engourdissement. Donc, c'est des choses qui sont à surveiller. Les maux de pouce, la douleur au poignet, à la main sont aussi associés aux jeux compulsifs. Quand on parle de mauvaise position, eh bien, à force d'être affalé sur une chaise ou d'être penché sur un téléphone portable, ça va avoir un impact sur la posture. Pas immédiatement, mais ça peut entraîner de graves problèmes physiques à l'âge adulte. Les maux de tête, les migraines, ça peut aussi être lié à des causes physiques telles que la fatigue oculaire, une mauvaise posture ou la déshydratation. Il y a aussi le manque d'activité physique. Jouer à des jeux sédentaires pendant de longues périodes peut signifier que les jeunes manquent de temps et de motivation pour faire de l'exercice, surtout en sachant qu'il est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé que les jeunes de 5 à 17 ans fassent au moins 60 minutes d'activité par jour. La mauvaise nutrition ou auto-soin, lorsque le jeu prend le dessus, les jeunes peuvent sauter des repas, mal manger, s'empêcher d'aller aux toilettes ou encore négliger leur hygiène. Par rapport au sommeil, ils peuvent jouer à des jeux stimulants pendant de longues heures, surtout tard le soir, donc ça va devenir plus difficile de s'endormir et d'avoir un sommeil qui est récupérateur. On pense que c'est important de vous présenter l'ensemble des conséquences parce que ça peut être des signes que votre enfant est en train de développer une cyberdépendance. C'est des indices à surveiller et à refléter à notre jeune afin d'agir le plus tôt possible et d'encourager une gestion saine des habitudes de vie sur Internet.
Donc, comment on parle de ça avec notre jeune? Comment on fait de la prévention? Bien, on peut tout d'abord informer notre jeune sur l'existence de la problématique de la cyberdépendance. Lui dire tout simplement que ça existe et lui expliquer globalement en quoi ça consiste, tout en faisant des comparaisons avec des dépendances qui peuvent être plus connues, comme l'alcool, par exemple. Rappelez-lui que vous êtes disponible s'il a des questions sur le sujet. On peut aussi l'informer sur les conséquences avec des exemples concrets adaptés à son âge, en se servant des impacts que nous avons nommés un petit peu plus tôt. Il est aussi conseillé de définir de façon claire ce que représentent de saines habitudes de vie sur Internet. On peut même élaborer un plan, un calendrier, un contrat et le signer avec notre enfant. On peut aussi l'aider à découvrir des activités dans le monde physique. Et ça, c'est un défi, on le sait, parce qu'Internet, c'est facilement accessible et peu coûteux. Pas besoin de faire de lift ou de payer une activité de sport. Mais on ne le dira jamais assez, c'est tellement important d'encourager la socialisation dans la vie réelle. C'est des étapes cruciales du développement de l'enfant. On peut aussi susciter des occasions pour discuter du sujet avec notre jeune et lui demander son avis. Est-ce qu'il en pense? Le questionner, questionner sa motivation. Pourquoi il va autant sur Instagram ou sur TikTok? Par habitude? Par intérêt? Amenez-le à réfléchir, à se questionner sur sa propre consommation et ses motivations pour développer ainsi son jugement critique. Il ne faut pas hésiter. On peut commencer la prévention tôt dans la vie de notre enfant. Dès le début de l'âge primaire, il pourrait intégrer des notions. Rappelez-vous que c'est favorisant de mettre l'accent sur les comportements qu'on souhaite voir se reproduire plutôt que sur les actions que l'on juge inadéquates. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de soutien, il existe plusieurs organismes et c'est aussi possible d'en discuter entre parents et partager ensemble vos connaissances. Entre adultes, on peut s'entraider.
Hey, as-tu vu les photos que j'ai publiées de Margot pour ça un an?
Non. As-tu mis ça sur Facebook ou Instagram?
Ben, les deux.
Ah ouais? Mais est-ce que ton compte est public?
Bonne question. Je sais pas trop.
Ben, si oui, là, savais-tu que tout le monde peut voir ça? J'ai reçu une formation sur le sujet de l'empreinte numérique à ma job dernièrement.
Puis ça disait quoi?
Ben, ça disait que toutes les infos qu'on partage sur nos enfants en ligne, du genre leur nom, leur date de naissance ou des photos, ben, elles peuvent être vues et utilisées par beaucoup de monde. Puis des fois, ben, c'est du monde mal intentionné.
Ouais, c'est clair. Hey, j'avais pas pensé à ça.
L'empreinte numérique. Comme parents, on a un rôle à jouer, un exemple à donner. Une majorité d'enfants de 2 ans et moins sont déjà présents sur les réseaux sociaux parce que leurs parents y publient des commentaires, des photos et des vidéos d'eux. En effet, de nombreux parents partagent des moments marquants de la vie de leur enfant. C'est normal d'avoir envie de partager ce qu'il y a de beau dans notre vie, mais il faut être conscient, cependant, qu'en faisant ça, les parents créent une empreinte numérique à leur enfant, souvent sans le savoir, et ça fait réfléchir. Donc, on définit l'empreinte numérique comme suit. Ce sont toutes les informations partagées en ligne sur votre enfant, comme son nom, sa date de naissance, des photos dans lesquelles il apparaît. C'est des renseignements personnels qui peuvent être vus et utilisés par beaucoup de monde, et le problème, c'est que parfois, c'est utilisé par des personnes qui sont mal intentionnées. Il y a donc un risque qui est réel, et c'est important d'être bien informé.
OK, mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Mais premièrement, on peut commencer par un geste qui est simple, qui consiste à ajuster les paramètres de confidentialité de nos réseaux sociaux et de ceux de nos enfants. Par exemple, on vérifie que nos comptes sont privés et on s'assure que nos publications ne sont pas publiques. On peut aussi facilement limiter les publications au sujet de nos enfants et prendre l'habitude de se questionner avant de publier quelque chose. Par exemple, est-ce que cette photo-là permet d'identifier mon enfant? Est-ce que ça pourrait le rendre mal à l'aise ou encore nuire à sa réputation plus tard? Est-ce qu'il a consenti ou je suis en train de publier quelque chose sans son consentement? On ne dit pas de jamais rien publier, mais si, par exemple, on souhaite partager un événement, admettons la fête de notre fils, on peut publier une photo de sa fête, mais seulement quelques jours plus tard en y ajoutant un commentaire général qui ne nomme ni son nom, ni la date de sa fête, comme « c'était l'anniversaire de mon garçon cette semaine ». Et autant que possible et par respect, on ne publie pas de photos d'un enfant dans une situation embarrassante, en pleine crise ou sur la toilette, par exemple. C'est aussi vraiment important de ne pas publier de photos où il est nu, que ce soit en partie ou complètement.
Mais pourquoi on doit faire tout ça? Parce que, premièrement, c'est important de respecter sa vie privée, de ne pas décider à la place de votre enfant si on publie une photo. On peut déjà prendre l'habitude de le consulter, lui demander son avis avant de publier quelque chose. De cette façon, on donne le bon exemple en matière de comportement responsable, on le sensibilise au consentement, on élève le jeune, on lui transmet des valeurs de collaboration, on l'implique dans des choix qui le concernent. On le considère tout simplement. Aussi parce que ses publications l'exposent à certains risques. En rendant public des détails de sa vie ou de sa personnalité, on lui crée ainsi une identité virtuelle avec laquelle il pourrait ne pas être à l'aise plus tard. Il pourrait vivre de l'intimidation ou de la cyberintimidation parce que des personnes pourraient utiliser ses photos ou ses vidéos plus tard pour se moquer de lui. Les photos et les vidéos de votre enfant pourraient être utilisées aussi à des fins de pornographie juvénile. Des entreprises pourraient aussi utiliser ces informations pour dresser le profil de votre enfant et s'en servir plus tard pour lui envoyer des publicités ou même aller jusqu'à lui refuser une assurance vie ou un emploi. Finalement, des fraudeurs peuvent obtenir des informations qui servent à confirmer l'identité de votre enfant ou à répondre à des questions de sécurité comme le nom de son premier animal de compagnie ou de son école primaire, par exemple.
C'est certain qu'il n'y a pas de magie. Apprendre à vivre sainement dans le virtuel, ce n'est pas inné. Les enfants ont besoin d'être encadrés et guidés et en étant leurs parents, vous êtes les mieux placés pour y contribuer. En s'informant, en accompagnant vos jeunes et en prenant le sujet au sérieux. Et comme vous avez écouté ce balado jusqu'à la fin, nous pouvons d'ores et déjà constater que vous êtes en train de contribuer au bon développement numérique de votre jeune. Rappelez-vous qu'en tant qu'adulte, vous pouvez faire la différence dans la vie des enfants qui vous entourent. Merci pour votre écoute et merci pour votre intérêt sur le sujet. C'est déjà la fin du premier épisode du balado Espace Parents. Espace Région de Québec souhaite remercier CKIA FM 88,3 et le programme Ensemble contre l'intimidation du ministère de la Famille. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou visiter notre site web espacesansviolence.org/Région Québec. Dans le prochain épisode, on aborde la cyber-intimidation.